broligarchie.
La broligarchie.
Bah, bro, ouais, brother, okay. Ouais.
C'est une oligarchie entre gens qui se connaissent bien.
Entre bros.
Qu'est-ce qu'on voit? On voit des bros ensemble, quoi, qui prennent le pouvoir.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, 2 heures pour décrypter notre époque à travers ces nouveaux mots, ces nouveaux phénomènes. Et aujourd'hui, une nouvelle expression pour définir ce qui est en train de se passer outre-Atlantique. Expression qu'on doit à l'universitaire québécoise Martine Delvaux. Zoom sur le nouveau visage de l'oligarchie, la broligarchie. Nous sommes le mercredi 22 janvier 2025 à Mar-a-Lago, dans la propriété de Donald Trump. Le président qui vient de perdre au golf contre un enfant de 8 ans a besoin d'être réconforté. Immédiatement, Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos, qui patientaient dans un placard, surgissent pour amuser le président avec une petite corée sur Macho Man des Village People. Son visage s'illumine, pourtant, parmi sa garde rapprochée, un susboule manque à l'appel. Son nom, Cyril Lacarrière. My Little French Ball Soccer, comme le surnomme Donald Trump depuis que notre rédacteur en chef a débarqué à Mar-a-Lago au lendemain de l'investiture pour, je le cite, « convaincre Trump de faire zoom zoom zen ». 3 semaines plus tard, les négociations sont toujours au point mort. Cyril a beau expliquer à Donald que France Inter est un peu le Fox News français. Le président américain semble se méfier. Pire, il aurait déclaré à ses équipes « si je fais France Inter, je ferai plutôt Nagui ».« I'd rather do Nagai ». Un coup dur pour celui qui s'emploie pourtant activement, enfin presque aussi activement que Zuckerberg, à prouver à Trump qu'il est son ami, son buddy, et qu'il mérite une place au sein de la broligarchie. Seulement voilà, même si Cyril est prêt à bien des concessions, le Little French Ball Soccer ne peut pas lutter face au niveau de flagornerie atteint cette semaine par Elon Musk, qui a quand même tweeté, je cite, « I love Donald Trump as much as a straight man can love another man ». Alors que nous réserve cette belle broligarchie? Est-elle solide? Peut-elle voler en éclats avec tous ses égos et toute cette testostérone? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Thomas Snegaroff.
Bonjour Mathieu Noël.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Alors Thomas, journaliste, historien, évidemment les auditeurs de France Inter vous connaissent bien, vous présentez le grand face-à-face le samedi midi. Ils ne vous connaissent que trop. Vous êtes aussi à la tête de C'est Politique tous les dimanches à 20h sur France 5 et vous venez de sortir une série de podcasts qu'on peut retrouver sur l'appli Radio France, Les oligarques de la Silicon Valley, anatomie d'un pouvoir sans limite. Qui sont ces hommes extrêmement puissants et extrêmement riches qui murmurent à l'oreille de Donald Trump, vous allez tout nous dire, juste le temps de vous présenter d'autres gens extrêmement puissants, riches, ce sera l'étape d'après. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
On espère, oui. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Ça tient en grande partie à vous.
C'est-à-dire, oui. Vous comptez sur moi pour renégocier vos salaires?
Peut-être, oui.
Non, baisser le vôtre, même.
Oh. Il pense que ça ruisselle.
Ça ruisselle, ouais, non? Parce que ouais. Moi, je crois au ruissellement. Manon, chaque après-midi, vous nous présentez l'autre personne à suivre, c'est notre sujet du jour.
Et dans la famille Trump, je voudrais la fille chérie. Elle est adorée de son papa et pourtant, on l'a très peu vue pendant la campagne présidentielle.
Face à vous, Thomas, lui, on l'entend rarement dénoncer les oligarques, et pour cause, il veut en être un. Hier encore, il me disait « Quand je serai grand... » Non, ne riez pas, Thomas, c'est une image. « Quand je serai grand, moi aussi, je serai un patron de la Silicon Valley, et je paierai que 21% d'impôts sur les sociétés. » En attendant, il se prépare à cette fiscalité avantageuse en snobant les recommandés de l'URSSAF qui s'accumulent sur son bureau. Quentin,
mais non,
chaque après-midi...
Trois fois,
après-midi,
ils ont du mal. Hein.
Votre petite entreprise, c'est le micro-trottoir de Zoom Zoom Zen. Alors, la broligarchie, ça fait peur aux gens.
En tout cas, ils l'ont bien identifié. Encore plus facilement quand je montre aux gens dans la rue une photo de l'investiture de Trump où derrière on voit une ligne de bros avec des comptes en banque qui débordent, autant qu'ils débordent d'idées, 10 débordeurs en plus. On parle broligarchie avant la nuit.
Vers 16h30, le Zoom Zoom Test nous entraînera à la découverte des vrais boys clubs, ceux qui assument l'Interallié, le Racing, l'Automobile Club de France. Connaissez-vous leurs codes, leurs règles? Petit guide pratique pour espérer être coopté. Et maintenant, je vous dis, c'est pas gagné. Ouais. Juste avant 17h, Ahmed Sparrow nous rejoindra évidemment, mais d'abord Thomas Snegaroff, on a intitulé cette émission « Broligarchie », l'oligarchie des potes, l'oligarchie des mecs. Est-ce qu'ils sont vraiment si amis que ça, ces grands patrons qui gravitent autour de Donald Trump?
Alors non, ils ont un point commun, c'est Donald Trump, un autre point commun, c'est l'argent, et un troisième point commun, c'est le désir de puissance, ça c'est sûr. Après, entre eux, non, ils se détestent cordialement.
Ils se détestent,
Oui. Elon Musk déteste globalement tous les autres, et tous les autres le détestent. Jeff Bezos a aucune relation particulière avec Mark Zuckerberg. Non, entre eux, c'est pour ça que le terme broligarchie doit être discuté, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils sont ensemble sur la photo, ils ont des intérêts communs. Ils ont peut-être une même passion commune, Donald Trump, quoique. Mais c'est sûr qu'ils n'ont même pas la même histoire par rapport à Donald Trump. Il y en a qui sont arrivés très tôt, d'autres très tard. Il y en a qui sont des convertis de l'heure d'après, quasiment. Donc non, ils n'ont pas le même rapport à
Trump. Et ils n'ont pas le même statut dans son cœur, quelque part.
Ah oui, alors ça, il y a le fils préféré. C'est Elon Musk. On l'a vu même avec son petit garçon dans le bureau ovale hier.
Sur ses épaules.
Sur ses épaules. Il y a le fils presque détesté et humilié, qui est Mark Zuckerberg, en fait, et qui fait tout pour être aimé du président. Bref, chacun a une fonction, effectivement, et on pourrait presque s'amuser au jeu des familles, là.
On va y revenir ensemble cet après-midi. Lui, il est revenu de Mar-a-Lago, la queue entre les jambes. The tail between the legs, comme on dit là-bas. J'ai tout donné, mais je rentre, m'a-t-il écrit dans un mail bouleversant. Cyril Lacarrière, ne soyez pas triste. Vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir pour que Trump vienne dans Zoom Zoom Zen. Tant pis pour lui.
Je lui
prédis un destin à la Nelson Montfort. Il finira dans Danse avec les stars. Racontez-nous plutôt. Mais oui, ceux qui refusent Zoom Zoom Zen, voilà.
Oui, il a pas refusé.
Mais je plaisante et on embrasse Nelson, évidemment.
D'ailleurs, Donald.
Non, Nelson.
Ah, il nous a planté.
Mais vraiment, non, tu as du problème d'agenda. Il se préparait pour danser avec les stars.
Ouais.
Racontez-nous plutôt, Cyril, vous qui l'avez côtoyé de près, la broligarchie, d'où ça sort?
Eh bien, vous l'avez dit, c'est un mot qui est apparu il y a tout pile un mois dans une tribune publiée dans Libération, tribune signée Martine Delvaux, une essayiste québécoise, autrice notamment du livre Le Boys Club. Boys Club, qu'elle définit comme ça. Des hommes, le plus souvent blancs, le plus souvent un peu âgés, le plus souvent hétérosexuels, le plus souvent assez riches, qui fonctionnent en circuit fermé. Ils s'échangent des chiffres, des informations, des documents, de l'idéologie, de l'argent, des armes et des femmes. Avec cette notion de broligarchie, Martine Delvaux affine encore un peu plus cette définition en associant deux mots.
À commencer par celui de l'oligarchie.
Un mot qui nous fait souvent penser à la Russie, et notamment à tous ces hommes d'affaires qui ont fait fortune sur les cendres de l'URSS, des vautours qui se sont emparés des richesses de leur pays pour une bouchée de pain. Celui qui est le plus souvent cité comme le premier d'entre eux, c'est Mikhail Khodorkovsky. Il a été l'homme le plus riche de Russie, et puis il a fait 10 ans de prison, et maintenant il vit en exil. Ça n'a pas matché avec Vladimir Poutine. Mais ce sujet des oligarques remonte en fait bien avant les années 90. C'est Aristote qui l'a popularisé au 4e siècle avant Jésus-Christ et c'était déjà pour désigner un gouvernement contrôlé par une élite riche et influente au détriment du peuple.
Et le préfixe bro, alors il vient d'où?
Des brothers, évidemment, frères comme on en colle aujourd'hui partout, comme bromance pour qualifier une amitié plus entre deux hommes. Mais ce bro a un sens particulier aux États-Unis car il renvoie aussi à ce brother qu'on se donne au sein des fraternités, des universités américaines. Des fraternités où la virilité est exacerbée, où la masculinité doit primer, ce sont de véritables boys clubs. La toute première a vu le jour le 5 décembre 1776 à l'université de William et Mary en Virginie, son petit nom Phi Beta Kappa. Ici, pas de femmes, d'où le fait qu'il y aura plus tard des sororités, mais des clubs fermés où se nouent des amitiés qui deviendront des cercles de pouvoir une fois les études terminées. Alors ces broligarques, faut-il en avoir peur? Vont-ils tous nous changer en esclaves? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril Thomas Negaroff. Un petit jeu pour commencer cette émission avec ceux qui sont dans votre podcast, les oligarques de la Silicon Valley, Peter Thiel, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Si je vous dis le plus trumpiste.
Aujourd'hui, c'est Elon Musk, mais historiquement, c'est plutôt Peter Thiel, parce que Peter Thiel, qui est le plus fascinant d'entre eux, et je pense qu'on va y revenir. Peter Thiel, c'est le fondateur de PayPal. Il a été au board de Meta. C'est un des premiers à avoir mis de l'argent dans Facebook. Il est d'ailleurs dans le film The Social Network. C'est un des personnages. Il aime pas d'ailleurs son personnage lui-même. Il le trouve trop vieux par rapport à ce qu'il était, parce qu'ils sont aussi très très délicats ces hommes. Et lui, c'est le premier à avoir franchi le Rubicon en 2016 à la convention à Cleveland. Il soutient Donald Trump. Alors là. Dans la Silicon Valley, c'est lunaire. Tout le monde est démocrate et qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est un peu le premier. Donc pour répondre à votre question, aujourd'hui le plus proche c'est Musk parce qu'il est collé à lui et qu'ils font vraiment équipe.
Mais l'historique
c'est Peter Thiel.
Le plus influent.
Le plus influent aujourd'hui, c'est certainement Elon Musk. Parce que, influent pour qui? Pour Trump ou pour l'Amérique ou pour le monde?
Oh, pour le monde.
Pour le monde. Bah, alors là, pour le coup, c'est aussi. C'est entre Zuckerberg et lui, parce que Zuckerberg, il a des milliards, et peut-être vous, de gens qui sont sur ses réseaux, et donc soumis à sa modération, à son désir, à son hubris aussi. Mais Elon Musk, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut couper Internet à un pays. Demain, Elon Musk, il peut décider que l'Ukraine a perdu la guerre. Vous vous rendez compte la puissance de l'homme?
Le plus prêt à dégommer Trump dès qu'il en aura l'occasion.
J'allais dire tous. Peut-être Jeff Bezos quand même, parce que Bezos, c'est quand même celui qui, le plus longtemps, a dit le pire qu'il pensait de Trump, y compris dans le Washington Post. Il considérait que c'était un danger pour la démocratie. Donc, c'est par pur opportunisme qu'il s'est rallié à Trump. Et je pense qu'au fond, Bezos est peut-être le plus éloigné, quand même, idéologiquement.
Et enfin, parmi tous ceux qu'on a cités, le prochain président des États-Unis, celui qui vise plus loin politiquement, en tout cas, il y en a un.
Alors, il y en a un qui ne pourra jamais l'être, parce que c'est Elon Musk, et qu'il est né en Afrique du Sud. C'est parce que c'était lui auquel on pense immédiatement. Non, je ne pense pas qu'ils aient beaucoup d'ambition politique. En fait, c'est des gens qui n'aiment pas la politique, dans le sens qu'ils n'aiment pas le pouvoir politique. Ils considèrent qu'au contraire, il faut diluer. Vous savez, Peter Thiel, c'est un type qui te dit en 2009, il faudrait qu'il y ait 1000 pays dans le monde entier. Parce que s'il y a 1000 pays dans le monde entier, ben je pourrais jouer la concurrence entre tous ces pays, et je pourrais aller faire du business au meilleur taux dans n'importe quel pays. Donc, je ne pense pas qu'ils aient le fantasme, ou même les autres, ils aimeraient que l'Amérique soit divisée en plein de pays. Et d'ailleurs, c'est intéressant, quand Cyril racontait l'histoire des oligarques russes, Rodorkovsky et les autres, ils sont nés dans la déliquescence d'un État. Eux, ils sont les acteurs de la déliquescence de l'État. Donc, c'est un peu l'inverse. Mais ils sont tous oligarques.
France Inter. Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël.
Quand bromance rime avec puissance, zoom cet après-midi sur le nouveau phénomène qui inquiète aux États-Unis, l'avènement d'une sorte de broligarchie. Qui sont les nouveaux oligarques qui dirigent les États-Unis avec Donald Trump? Le journaliste de France Inter, Thomas Stegaroff, leur consacre une série de podcasts. Thomas, est-ce que c'est si unique que ça dans l'histoire des États-Unis, cette proximité affichée en tout cas entre le président et des grands patrons, ou c'est juste qu'avant c'était juste plus discret?
Alors il y a bien sûr toujours eu ça dans l'histoire américaine, en tout cas dans l'histoire contemporaine américaine, et l'idée en plus de bros qui ont, parce que chez les bros, bien sûr il y a l'idée de potes, de masculinité avec Zuckerberg, l'énergie masculine, ouais, etc. C'est presque, on a presque l'impression d'un rôle qui lie, enfin c'est ridicule presque cette conversion, mais enfin bon, on comprend qu'il y a quelque chose de l'ordre de la masculinité qui se joue ici, mais il y a aussi un même monde, les grandes universités, l'Ivy League, etc., ces fraternités. Et ça, on retrouve ça dans les années 20 et 30 aux États-Unis très fortement. Alors, ce qui change aujourd'hui, c'est que Zuckerberg, il est juif, par exemple. À l'époque, c'est que des WASP, des White Anglo-Saxon Protestants. Là, ils sont vraiment dans un même monde. D'ailleurs, ils sont tous hyper antisémites, anti-racistes. Vous pouvez imaginer à quel point ils sont racistes. Les J.P. Morgan, les Irénée Dupont, les Robert Sterling, tout ce monde-là, même le Prescott Bush, qui est le grand-père de George Bush, c'est un petit monde-là autour des républicains qui veulent tuer Roosevelt quand il arrive au pouvoir. Ils le surnomment Rosenfeld entre eux, donc ça raconte quand même un petit rapport un peu conflictuel avec la religion juive. Et le New Deal, ils l'appellent le Jew Deal. Donc c'est des gens qui sont vraiment là et qui sont dans l'opposition à un moment donné. Donc oui, il y a eu dans l'histoire américaine des milliardaires, aussi riches d'ailleurs que ceux d'aujourd'hui.
Oui, proportionnellement.
Oui, ou à la fin du 19e siècle, les Carnegie et les autres. D'ailleurs, c'est le premier épisode qu'on a consacré dans la série, parce qu'on voulait raconter cette histoire des oligarques, qui avait une histoire assez longue. La différence, c'est qu'ils étaient, comme vous l'avez dit, discrets. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont au pouvoir. Et franchement, quand on voit Elon Musk qui fait son cirque dans le bureau ovale, là, on n'a jamais vu ça dans l'histoire américaine.
Vous parliez de masculinité. On sait que le mouvement masculiniste prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui. Est-ce qu'ils se rapprochent tous de ce mouvement-là? Est-ce qu'ils en ont les idées aussi?
Alors, oui, enfin, ils en ont. Quand Mathieu tout à l'heure citait, en rigolant, mais citait quand même les mots de Musk en disant je l'aime autant qu'un homme. Ouais. Alors attention, je ne suis pas homosexuel. Oui.
Mais attention, je le rappelle, je ne suis pas homosexuel.
Un homme hétéro.
Autant qu'un homme hétéro pour en aimer un autre, straight man. Donc là, c'est intéressant parce que même ce rapport au trans, ce rapport à l'altérité, en fait, à tout ce qui est autre, là, ils ont un sujet avec ça. Oui, moi j'ai. Depuis un moment, je pense que le moment qu'on vit, c'est quand même aussi un backlash de MeToo. C'est n'oubliez quand même pas que Trump lui-même a été épinglé par le mouvement MeToo. Les propos qu'il tenait, il a été quand même condamné pour des relations avec des femmes. Il a cette histoire-là. Et ces hommes autour de lui ne l'ont pas forcément eux-mêmes directement, mais ils ont compris, soit consciemment, soit stratégiquement, qu'il y avait là un terreau. Et quand on regarde la structure du vote pour Trump contre Kamala Harris, c'est pas le seul facteur. Mais il a surperformé chez les hommes, y compris des hommes issus des minorités. Donc il y a quand même quelque chose qui s'est joué autour du genre, qui était très puissant et qui est très vrai et très puissant aujourd'hui encore à la Maison-Blanche. Oui.
Thomas Negaroff, Musk, il est rentré dans l'équipe de Trump avec un poste à responsabilité sur l'efficacité gouvernementale. Mais les autres, Zuckerberg, Bezos, est-ce qu'ils ont vraiment un poids politique? Est-ce qu'ils n'ont pas jalousé le fait de ne pas faire partie du gouvernement, entre guillemets?
Alors, je ne sais pas s'ils avaient cette ambition-là, ça reste des hommes d'affaires les autres. En revanche, ce qui les intéresse tous au premier chef, c'est vraiment d'avoir l'oreille de Trump. Pour deux raisons. D'abord parce que Trump, il l'espère, va leur ouvrir de nouveaux marchés à l'extérieur, dans d'autres pays, libéraliser leurs actions. Quand Zuckerberg fait son grand discours sur la modération, il dit « on s'est trompé, j'en ai fait trop à l'époque », etc. En fait, c'est de la censure. Après, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « en Europe, il y a un problème ». Sous-entendu, dans la grande négociation commerciale, on vient d'en parler dans les titres, sur les 25%, il n'est pas impossible qu'à un moment donné, dans l'art du deal dont on se réfère en permanence Trump, il y est ça. Il y est, ouais, mais attendez les gars, ok, mais moins de modération sur ça. Parce que donc Zuckerberg espère un intérêt économique à ça. Et puis l'autre intérêt, c'est que le président américain, il peut quand même faire une chose, c'est démanteler tous ces trusts, tous ces monopoles. Meta, c'est un monopole. Google, c'est un monopole. Amazon, c'est un monopole. Et le président américain, théoriquement, son travail, parce que c'est un pays libéral, c'est de casser les monopoles.
Mais donc, le dénominateur commun de tous ces gens, en fait, c'est la peur.
Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. La peur de voir démanteler leur business. Ils n'ont jamais supporté les sanctions européennes contre Microsoft, par exemple. Pour eux, c'est un cauchemar, ça. Et donc, leur idée, c'est à la fois d'avoir un Trump qui leur permet de continuer à prospérer chez eux, et ensuite d'empêcher les autres, notamment les Européens, de nuire à leur business.
J'ai pris acte de l'échec commercial de ma tasse connectée Loucigalou et j'en tire les conséquences en me retirant de la vie entrepreneuriale. Si Quentin avait été jospiniste, voilà ce qu'il aurait dû annoncer. Mais non, son idole, c'est Alain Madelin. D'où le fait qu'il se soit exclamé plus tôt « Bah ma tasse en toc, les gens sont pas tombés dans le panneau, mais je vais me refaire avec les vioques. Mes EHPAD pour riches, ça c'est une idée gagnante. »
Bien sûr.
Quentin, je sais, c'est horrible cette idée. Quentin, en attendant de boucler ce beau projet humaniste, vous continuez d'interroger les gens au hasard des rues. Et aujourd'hui, non, pas de hasard, c'est au pied de la tour Montparnasse. Oui. Vous êtes allé discuter avec les gens.
La Tour Montparnasse, c'est un peu notre Trump Tower à nous. Un côté rétro kitsch, bling bling, qui sent un peu les anciens francs. Mais moi, je l'aime bien. Je vous présente Zaya. Elle a 62 ans. Elle part faire ses courses. Connaît-elle le mot du jour de Zoom Zoom Zen ?
La broligarchie. Ah oui, et ça va être ces dizaines de personnes qui vont contrôler le monde. Il y a le gars d'Apple, Facebook, il y a LVMH qui était derrière et qui se cachait.
Ça vous fait peur ?
Oui. Il y a une poignée de riches et il y a beaucoup de pauvres. Il y a de plus en plus de pauvres. Ils sont en train de racler les tiroirs. Mais ils n'ont qu'à prendre aux riches, hein, je suis désolée. Si vous prenez aux pauvres, il va leur rester quoi ?
Elles ont deux gros sacs à dos de rando fluorescents sur le dos. Bonjour.
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 Quels sont vos prénoms ?
Camille.
Marion.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis au chômage depuis un mois.
Félicitations.
Merci. Et moi, je suis médiaplanaire.
Vous allez où comme ça, là ?
On va voir la Tour Eiffel et on rentre chez nous en Bretagne.
Vous voyez, Manon Mariani, on peut aimer les choses simples et se réjouir de la beauté parisienne qui nous entoure, au lieu de l'ignorer sous prétexte qu'on a grandi à côté. Allez, connaissent-elles notre mot du jour que j'ai accompagné d'une photo de l'investiture de Donald Trump ?
La broligar... chi ?
Bah, bro, ouais, brother, okay. Ouais.
Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des bros ensemble, quoi, qui prennent le pouvoir.
Ça, c'est la famille... Enfin, je vois, du coup, Trump, son fils, Musk. Ah oui, du coup, je vois toutes les plus grandes fortunes du monde. Enfin, ça fait un peu peur dans le sens où c'est quand même des gens qui ont énormément de pouvoir et donc ça veut dire que c'est un peu compliqué s'ils ont des prises de position politiques qui sont quand même dangereuses pour l'humanité, quoi. Parce qu'ils peuvent les appliquer, que les gouvernements le veuillent ou non.
Elle ajoute que l'image est marquante quand même. Tous ces hommes...
Oui, oui, c'est un club. Enfin, c'est un peu un country club, un club VIP complètement fermé. Et puis même, enfin, ces personnes-là qu'on voit derrière, qui ne sont pas du coup des élus, mais qui sont des grandes fortunes, dans tous les cas, elles ont pratiquement autant de pouvoir, voire plus de pouvoir que certains présidents. Enfin, pour moi, Musk, limite, a autant de pouvoir aujourd'hui que Trump, quoi.
Audrey, elle est architecte, elle bosse sur le chantier de la Tour Montparnasse, qui sera toute végétalisée, on ne pourra plus confondre avec la Trump Tower. Audrey, a-t-elle vu passer la broligarchie ?
Ah, toutes les histoires avec Trump et que les mecs, c'est la vérité, c'est ça ?
C'est la vérité.
Bah, c'est-à-dire, on est les plus forts et les femmes vont s'écraser, bro, comme brother.
Ouais.
Ouais, c'est la régression, ouais. Parce qu'on revient dans un monde où il n'y a plus d'égalité entre les hommes et les femmes et que ça date pour moi d'un ancien temps, mais finalement plus trop.
Lui est en train de descendre une canette d'une boisson énergétique. Il porte un pantalon chino-beige, un manteau vert épais, ses cheveux frisés grisonnants coiffés en arrière. Hervé est agent immobilier. Bonjour.
Bonjour.
Hervé, vous avez quel âge ?
59 bientôt. Broligarchie.
Non, je sais pas ce que ça veut dire.
Je lui explique en montrant cette photo, Musk, Bezos, Zuckerberg, Sam Altman, d'OpenAI, et tout devant...
Ah, oh, il y a Donald Trump.
Est-ce qu'on est rentré dans la broligarchie?
Bah peut-être, je suis pour la liberté et pour ce genre de personnage qui prend les choses en main et qui sait s'entourer.
Ah oui.
Oui, c'est mon avis. Voilà, c'est pour ça qu'on est sur France Inter.
C'est important, mais je suis content. Heureusement que j'ai pas que des gens qui me disent que...
Non, mais moi j'écoute une... Je suis branché sur une chaîne qui critique beaucoup votre radio.
Qui? C'est qui? Qui parle de nous?
C'est News.
Ils ont le temps de nous écouter?
Bah ils vous écoutent un petit peu et puis ils parlent de vous souvent en mal parce que c'est souvent... Mais bon, c'est le jeu. Dire ces news, ils sont à droite, vous êtes plutôt à gauche. Bon, voilà. C'est le jeu, hein. De toute façon, il faut tout pour faire un monde.
C'est marrant quand même, le rapport, comme même le rapport aux médias, c'est lui-même aussi américanisé, un peu clivé. Alors, y a-t-il quand même une énergie d'entreprendre qui se développe derrière tous ces bros et Donald Trump?
Évidemment, c'est un chef d'entreprise. Donc, s'il gère le pays comme il gère ses entreprises, ça devrait...
Je sais pas s'il a tout réussi dans ses affaires, lui.
C'est pas un mauvais, en tout cas, parce que vu la fortune qu'il a amassée, je pense qu'il n'est pas aussi mauvais qu'on peut le dire. Mais les Français ont peur de lui, mais les Français sont ridicules. Voilà.
Mais il n'y a que des hommes aussi, dans cette broligarchie.
Ah oui, oui, là-bas, il n'y a que des hommes. Ouais, oui, bah c'est un peu l'ancienne mentalité, peut-être, de prendre que des hommes. Maintenant.
C'est un monde d'hommes, quoi. Mm-hmm. Et peut-être que c'est bien que l'Europe se démarque un peu là-dessus.
Oui, peut-être, oui. Mm.
Bon, je vous ai pas forcément convaincu là.
Non, pas trop, non.
Bon, bah, j'aurais essayé. Si vous l'avez vu passer, vous avez forcément pu comprendre ce mot, ces hommes riches, blancs, plutôt âgés, à la tête d'entreprise dont on se sert quotidiennement et qui sont depuis l'investiture portés par une énergie masculine, économique et politique. Le pouvoir donne des ailes, comme sur la canette d'Hervé, à voir si elle ne brûle pas un peu sur la durée.
Merci Quentin. Thomas Snegaroff, on a l'impression que cette broligarchie, elle décomplexe jusqu'en France. Moi, il y a un truc qui me sidère, ouais. Cette histoire du salut hitlérien d'Elon Musk. Finalement, auprès d'une certaine partie de la population, on a l'impression que ça passe. Bon, ça passe, alors qu'à une époque, enfin, je sais pas, il y a 10 ans, ça ne serait pas passé. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être...
Oui, alors... Quand on regarde un peu le temps long, je me souviens pas parce que j'étais trop petit, mais la fascination qu'exerçait aussi la révolution réganienne dans les années 80. On parlait d'Alain Madelin tout à l'heure.
Non, mais on n'en parle pas assez.
On en a parlé deux fois.
C'est
la première fois depuis 1989 quand même. Et bien, c'est quand même incroyable quand même que à l'époque il y avait une fascination pour cette Amérique-là. Aujourd'hui, il y a un peu ce même genre de fascination. C'est intéressant d'ailleurs l'allusion à CNews et ce que ça raconte. Mmh. Parce que pourquoi ça touche, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a quelque chose d'universel en fait dans ce qu'il raconte. Et ce qu'il raconte, c'est de dire on ne peut plus rien dire, on nous empêche de dire des choses. Moi, quand on me dit on ne peut plus rien dire, j'entends toujours on ne peut plus tout dire. Mmh. Et c'est un peu ça, le salut nazi, c'est quelque chose qu'on a l'impression que. Quoi, tout se vaut. Et d'ailleurs, la personne que vous avez rencontrée dit la vérité. Ah, la vérité. Oh non, une femme dit la vérité. C'est quoi la vérité? En fait, on sent bien que la limite entre l'opinion et la vérité, elle disparaît. On sent bien que entre la censure et la modération, on ne sait plus la limite. Et c'est là-dessus qu'ils sont très forts, ces gens-là. C'est pour ça qu'on a intitulé le podcast Un pouvoir sans limite ou sans fin, parce qu'il y a cette idée-là. Que toutes les limites doivent être franchies tant qu'elles ne nuisent pas à ceux qui les ont définies. Parce que le trans, par exemple, être trans, ils pourraient adorer ça, ces gens-là, qui sont hyper libéraux. Mmh. C'est la manière la plus puissante de faire sauter des limites, qui sont des limites anthropologiques.
Alors pourquoi ils sont contre ?
Ben, ils sont contre parce que, par ailleurs, ils sont évidemment attachés à une forme de conservatisme, à une fixité de l'identité, à une définition du genre qui est celle du sexe. C'est intéressant, il faudrait qu'ils suivent les programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui seront à la rentrée prochaine, en septembre prochain, parce qu'ils apprendront, avec nos élèves, au lycée, que le genre et le sexe j'arrive pas à trouver le mot, mais vous avez compris ce que je voulais dire.
On a compris ce que vous voulez dire. Voilà. Et moi-même, je cherchais pour essayer de briller en finissant votre phrase, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais nos auditeurs sont plus brillants que nous deux. Quentin.
Peut-être qu'elle va inspirer cette bande, cette bande d'hommes quand on entend Hervé. Bon, on peut se dire qu'en France, ça va arriver. Et qui pourrait incarner une forme comme ça de broligarchie assumée, viriliste presque, en France?
Alors, je ne sais pas. Je suis assez je ne suis pas certain d'une importation de cela en France. Mmh. Parce que ce qu'on n'a pas trop dit, c'est que cette broligarchie et aussi cette mentalité américaine, elle est aussi très nourrie par une espèce de culture de l'inculture. Je suis pas en train de dire qu'ils sont bêtes, ces gens-là, hein, mais il y a quelque chose du bon sens, ouais, de l'action, etc. Nous, on est quand même un vieux pays où un président, pour dire qu'il est devenu vraiment président, a dit qu'il a commencé à lire des livres. C'était Nicolas Sarkozy. Ou en écrire, c'est Jordan Bardella. Donc on est... Non, mais sans vouloir, oui, faire de la politique, c'est... on est quand même un pays de l'écrit, de la nuance, je sais pas, mais en tout cas, d'une forme de rationalité du savoir. Je suis pas sûr qu'on soit absolument dans cette logique-là. Mmh. Regardez le débat qu'a lancé chez nous Bernard Arnault. Chez nous, ça fait des débats partout. Mmh. Aux États-Unis, ça serait passé, ça serait une évidence, bien sûr. Bernard Arnault a raison. En France, ça résiste, ça discute, ça débat, et c'est très bien comme ça.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Alors qu'on zoome aujourd'hui sur la broligarchie qui s'impose aux États-Unis, je vous propose pour le quiz de revenir en France, car nous aussi, on a des boys clubs et des règles très précises pour y entrer. Par exemple, Quentin, qui a tendance à chanter partout où il va, ne pourrait jamais intégrer un tel club. Jouons au Zoom Zoom Test. À la découverte de ces clubs très sélects de la capitale, où le soir venu, Cyril Lacarrière refait le monde, un brandy on the rocks à la main. Ici, on ne parle pas broligarchie, car on n'est pas entre frères, on est simplement entre nous, patron du CAC 40, vedette du showbiz. Ici, point de vulgarité, on ne boit pas de milkshake, on ne mange pas de hot dog et on ne se trémousse pas en écoutant des invertis déguisés en indiens. Non, ici, à l'entrée du Racing, de l'Interallié ou encore du Siècle, il faut, comme chez les frères de Bétaram, montrer patte blanche. Et pas que, dirait l'abbé Chibrard. Car les cercles de pouvoir de notre beau pays aiment les secrets bien gardés. Quentin, louez un costume car votre cellio cintré grinardo en acrylique laqué, ça ne le fera pas, pour entrer dans ce qui serait pour vous le saint des saints, l'Automobile Club de France. Oula. Par curiosité, Manon décide elle aussi de tenter sa chance. Hélas, elle qui, de sa vie, n'a jamais été recalée d'une seule boîte de nuit, va trouver porte close. D'après vous, pourquoi la Marianoche va-t-elle subir un tel affront?
C'est une femme.
Parce que pour intégrer le Tobul Club, il faut impérativement ne pas avoir rayé de voitures de location sur les 5 dernières années, posséder soi-même au moins 3 voitures, ou bien il faut impérativement ne pas être une femme.
C'est B.
B et C.
Non, juste B. Tu peux être une femme. B.
C'est bien, j'aime bien, Quentin, quand vous êtes comme ça, affirmatif. Ouais. Bah, vous êtes sûr de vous. Bah, et vous avez tort. C'est une bonne réponse de Manon Mariani. Ah non, même pas. Non. C'était juste la réponse C. Il faut surtout ne pas être une femme. C'est le bon sens, hurlant en régie Cyril.
Oui.
Bienvenue à l'Automobile Club de France, le temple des amoureux de belles mécaniques. Ce lieu d'histoire est également un lieu de partage, d'amitié et de bienveillance, nous dit le site officiel. Mais voilà, à 10 000 boules de frais de dossier et 2 400 € de cotisation annuelle, on va quand même pas s'emmerder avec les bonnes femmes. Partage, amitié, bienveillance, mais entre mecs donc. Vous aurez le plaisir d'y croiser Carlos Ghosn, Charles Becbédé et Nicolas Sédoux, mais pas Quentin, lui, qui malgré sa passion pour l'automobile a été sèchement recalé. D'après vous, pourquoi?
Oula.
À cause de son bouc?
À cause de ma taille?
À cause de la découverte à son domicile d'un blouson Valentino Rossi incompatible avec le standing de l'Automobile Club de France? Oh. Ou à cause de sa taille?
B.
Bah, j'ai peur.
Bah, B, les sapes, il faut être bien habillé, je pense.
Alors, c'est pas exactement ça le raisonnement, mais c'est une bonne réponse de Manon Mariani. Mais oui, désolé, Quentin, j'aurais aimé vous pistonner, mais c'est impossible. Le processus d'admission à l'Automobile Club est impitoyable. Il faut avoir l'aval de 2 parrains déjà membres du club et de 5 autres personnes pour appuyer sa candidature, avoir son permis de conduire et pouvoir justifier d'un intérêt réel pour l'univers automobile, ainsi qu'un dossier candidature béton qui sera examiné par 21 membres de la commission. Et surtout, il y aura, tenez-vous bien, une visite à domicile pour évaluer, je cite, si votre personnalité et votre lifestyle sont compatibles avec les valeurs de l'Automobile Club de France. Là, fatalement, on imagine les inspecteurs découvrant au fond d'une armoire l'impensable.
Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la merde.
Non, c'est un blouson Valentino Rossi. Allez hop, Automobile Club, on oublie. On aura peut-être plus de chance du côté du Jockey Club de Paris.
Pour moi?
Là, oui, quand même, Quentin se dit qu'entre son enfance dans le pays des haras et ses prédispositions, on va dire, morphologiques, il a toutes les chances d'intégrer le Jockey Club. Sûr que sa passion bien connue pour les chevaux, fussent-ils fiscaux, faciliteront son admission, Quentin postule donc à ce que Proust appelait le cercle le plus fermé au monde. Pourquoi va-t-il échouer aussi lamentablement? Parce qu'il a tiré la boule noire?
Oh.
Là, vous le faites bien, vous faites presque aussi bien que le son lui-même. Parce que le comité de direction aura tôt fait de découvrir que Quentin Louis d'Alençon n'est pas son vrai nom. Ou parce qu'en dépit des apparences, Quentin mesure plus d'1m55, la taille limite pour intégrer le club.
BC.
C'est fou que vous dites n'importe quoi aujourd'hui.
BC.
Non.
Non, B. Bah B.
C'était les réponses A et B. C'était dur, c'était dur. Réponse A et B, pourquoi ? Oh, la boule noire, Quentin, la boule noire, la boule noire. Car oui, il y a du motus dans le processus d'admission au Jockey Club. Il faut obtenir 84% des votes des membres pour être admis. Et pendant longtemps, le vote s'est fait grâce à des boules blanches et noires. Une boule noire annulant 5 boules blanches, me demandez pas pourquoi. Et même si le Jockey Club se défend d'être une réserve naturelle à particules, il suffit de préciser que Philippe d'Albert, duc de Lune, Pierre de Cossé, duc de Brissac, Alexandre de la Rochefoucauld, duc d'Estissac, François de Cossé, duc de Brissac lui aussi, et Roland de Luard, marquis de Luard, sont les 5 derniers présidents de l'institution. Mais chut, pour l'instant, ils n'ont pas encore découvert que, contrairement à ce qu'a affirmé son parrain, le boucher des stars Denis Chesnay, Cyril ne s'appelle pas vraiment de la carrière, mais la carrière tout court. Enfin, je terminerai par une question destinée à tordre le cou à ceux qui insinuent que notre émission serait un repère de dangereux gauchistes arrivés en France clandestinement depuis le Wokistan. En effet, d'après vous, parmi nos derniers
pas pour tout le monde.
Parmi nos derniers invités, qui fait partie du prestigieux club Le Siècle ? À vous de trouver. Deux petits indices. Vous levez des indices ou...
Réfléchissez. Ah non, mais faut...
Parmi nos derniers invités.
Ah, nos derniers invités.
Qui fait partie du siècle ?
Bruno Solo ?
Non.
Bizarre.
Petit indice.
Un homme.
Alors, c'est des hommes. L'un est fan de Johnny.
L'un est fan de Johnny.
Ah, mais c'est Raffarin.
Ah, Jean-Pierre Raffarin. Ouais. Et l'autre passe ses vacances avec Marie De Breuer.
Emmanuel Chin.
Emmanuel Chin à Patmos avec Marie De Breuer, effectivement. Voilà deux membres du siècle. Victoire de personne, puisque nous sommes sur une situation d'égalité. Désolante, 2-2.
Désolante, bah non.
Oui, désolante.
Et je me demande, Quentin, comment on peut être à égalité en ayant été si nul. Parce que vraiment...
Bah, je viens de mettre les deux dernières réponses.
Ah, c'est peut-être pour ça.
Ah bah oui.
Les oligarques de la Silicon Valley, anatomie d'un pouvoir sans limite. C'est le titre du nouveau podcast de Thomas Negaroff. 6 épisodes consacrés à ces entrepreneurs milliardaires qui gravitent autour de Trump. Podcast réalisé avec Philippe Corbet, qu'on avait reçu ici il y a quelques semaines. Et je voudrais parler du dernier épisode, Trump, la marionnette, point d'interrogation. Vous dites que Trump est un marionnettiste ?
Non, on se pose la question. Est-ce que Trump, c'est la marionnette de ces oligarques-là, ou est-ce qu'il est le marionnettiste génial, à savoir le type qui a réussi à s'entourer des plus puissants pour les neutraliser afin de faire prospérer son pouvoir? On n'a pas de réponse.
Vous n'avez pas d'intime conviction?
Non, moi, mon intime, si, j'ai une intime conviction. Mon intime conviction, c'est qu'ils ont des intérêts qui sont convergents. Donc, ils se tiennent tous. C'est pour ça que quand on me demande souvent quand est-ce que ça va s'achever entre Musk et Trump, personne n'a de boule de cristal, mais ça s'arrêtera lorsqu'ils considéreront que leurs intérêts ne sont plus convergents. Aujourd'hui, ils ont les mêmes intérêts de business et de politique. Et d'ailleurs, j'ai réécouté, vraiment, je vous conseille de le faire, j'ai écouté sur la longueur, la demi-heure, pas seulement les images de crotte de nez, du petit-fils, du fils de Musk, ça c'est rigolo, mais moi j'ai pas tellement envie de rigoler avec eux en fait. J'ai envie d'écouter et comprendre ce qu'ils racontent, ces types-là. Et quand on regarde pendant la demi-heure entière, ils ne cessent de parler de l'entreprise. En fait, pour eux, vraiment, quand on dit, et ça a été dit tout à l'heure, ils pensent que leur pays c'est une entreprise, ils le disent vraiment, ils disent, dans une entreprise, on ferait pas ça. Bah oui, mais t'as envie de leur dire, oui, mais ce n'est pas une entreprise. Sauf que c'est vraiment comme ça qu'ils vivent la chose. Est-ce que c'est inquiétant ou pas? Je pense. Tout à l'heure, on parlait des femmes. Peter Thiel, c'est quelqu'un qui dit qu'il pense que la démocratie n'est plus conciliable avec le capitalisme. Et quand il évoque les limites au capitalisme et à la démocratie, il dit, il y a plein d'entraves à la démocratie, et il évoque, par exemple, le droit de vote des femmes. Il dit, ça affaiblit l'Amérique. Donc, on en est quand même là, et c'est des gens qui sont dans la tête de Trump aujourd'hui. Hein.
Moi, le personnage qui m'a intéressé, c'est Jeff Bezos. On parle beaucoup de Musk et de Zuckerberg. Il possède quand même le Washington Post, qui est l'un des plus gros journaux aux États-Unis. Il aurait pu créer un contre-pouvoir avec. Pourquoi il ne l'a pas fait ?
Il l'a fait. Ça a été un contre-pouvoir vraiment en 2016. C'était une arme démocrate. Ça l'a été ensuite pendant les années de pouvoir de Trump. Il a été très dur. Et d'ailleurs, il avait même changé le slogan du journal, pour dire que c'est ainsi que meurent les démocraties. Enfin, il y avait quelque chose d'assez puissant et de programmatique.
Mais il a arrêté.
Et puis, grande surprise, on ne l'avait pas vu venir, mais en fait, il y avait un indice. Pendant la campagne présidentielle, pour la première fois depuis très longtemps, des décennies, le Washington Post n'appelait à voter pour personne, en disant, de toute façon, les gens ne nous écoutent pas. Et en fait, on n'avait pas compris. C'est qu'ils avaient commencé à faire le pari d'une victoire de Trump, et ils savaient très bien que Trump, qui n'avait cessé de qualifier les journalistes d'ennemis du peuple, et dire qu'il y aurait une purge qui commence aujourd'hui s'il gagnait l'élection présidentielle américaine, la trouille, on parlait de la peur, de ces gens-là, ça a été d'être emporté par ce ressentiment, ce sentiment de vengeance vengeance et de revanche très puissant chez Trump. Et donc, progressivement, il a fait allégeance. D'abord, je ne soutiens personne. Et puis, en étant au premier rang lors de l'investiture le 20 janvier et en payant largement...
Et en s'humiliant un peu aussi.
En acceptant une forme d'humiliation pour protéger son intérêt.
Il y en a un qui n'est pas dans votre série de podcasts, Thomas Negaroff, c'est Tim Cook, le patron d'Apple, qui était à la cérémonie d'investiture.
Oui.
Est-ce qu'il pèse dans cette broligarchie ou est-ce qu'il veut être en retrait, lui ?
Lui, il est plutôt en retrait. Lui, ce qui l'intéresse, Tim Cook, c'est... Bon, encore une fois, c'est le business. Lui, la différence des autres, c'est qu'il n'a pas fondé Apple. C'est un patron. C'est pas le fondateur. C'est pas l'incarnation de sa marque. Apple, c'est plutôt Steve Jobs. Donc lui, et Steve Jobs, je ne suis pas persuadé que Steve Jobs aurait été là. Mais on n'en sait rien. À vrai dire, on n'en sait rien. Parce que franchement, Mark Zuckerberg, j'aurais jamais pensé. Et Tim Cook, il est là parce qu'il doit y être. Parce qu'encore une fois, il n'a pas envie qu'Apple soit démantelé. Parce qu'il y a des enjeux économiques majeurs dans le monde entier. Parce qu'il est très présent en Chine, comme Elon Musk, pour la production de son matériel. Donc oui, il a des intérêts partout. C'est pas du tout un mariage de raison. D'ailleurs, c'est même pas un mariage. D'ailleurs, beaucoup ont été assez embêtés de voir Tim Cook dans la mesure où Apple a généré toute une image de contre-culture depuis l'origine, 1984. Souvenez-vous, la première pub d'Apple en 1984, c'était sur 1984. C'était l'idée, on va casser le monopole du PC. Donc il y avait quelque chose de très contre-culturel. Et de les voir aujourd'hui au premier rang de l'investiture de Trump, c'était pour beaucoup de consommateurs d'Apple une forme de déception, voire pire, de trahison.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47. L'heure de découvrir maintenant l'autre personne à suivre.
Je vous présente Ivanka Trump. Elle a 43 ans, elle est américaine et c'est la fille de Donald Trump, issue de son premier mariage avec Ivana. Ivanka Trump, c'est vraiment l'archétype de la fille à son papa. Après des études à la Wharton School de l'université de Pennsylvanie, comme lui, elle rejoint rapidement l'empire Trump et devient vice-présidente exécutive de la Trump Organization. En parallèle, elle développe aussi sa propre ligne de mode et de bijoux financée évidemment par papa. Donald Trump a toujours eu pour habitude de montrer sa fifille chérie. Il l'a fait participer à son émission The Apprentice par exemple et l'emmène aussi sur les plateaux télé. En 2006, le père et sa fille participent par exemple à l'émission The View et ça donne un moment assez gênant.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
Si Ivanka n'était pas ma fille, je pourrais sortir avec. Ce n'est donc pas si étonnant que 10 ans plus tard, lorsque Donald Trump se lance en politique, Ivanka devienne l'une de ses plus proches conseillères. Elle joue un rôle important dans l'adoucissement de son image en mettant en avant des sujets un peu plus consensuels comme l'émancipation des femmes ou la conciliation travail-famille. C'est elle aussi qui l'introduit lors de la convention républicaine de 2016. Une fois à la Maison-Blanche, elle obtient un rôle de conseillère officielle comme son mari, Jared Kushner, qui devient l'un des proches conseillers de Trump. Mais depuis la défaite de Trump en 2020 et surtout l'assaut du Capitole qui a suivi, Ivanka se fait beaucoup plus discrète. Son mari et elle ont quitté Washington pour vivre une vie paisible en Floride, où Ivanka est devenue une sorte d'influenceuse pour WASP. Elle partage sa vie quotidienne sur ses réseaux et ne parle plus du tout de son papa. Elle a d'ailleurs été la grande absente de sa dernière campagne. Sa seule apparition publique aux côtés de Donald Trump a été pendant son investiture. Selon certaines rumeurs, Ivanka Trump se serait éloignée de son père après un repas entre lui, Kanye West et Nick Fuentes, les deux ayant eu régulièrement des propos antisémites. Or, Jared Kushner, son mari, est juif et elle-même s'est convertie. Alors, est-ce vraiment l'objet de la discorde ? En tout cas, peut-être qu'il y a tentative de réconciliation, car Ivanka Trump s'est affichée avec son papa ce week-end lors du Super Bowl.
Merci Manon. D'un mot, Thomas Stegaroff, on sait ce qui se passe, on sait pourquoi elle était mise en retrait, pourquoi elle s'est mise en retrait, Ivanka ?
Non. C'est pas le plus grand mystère de l'univers, mais c'est effectivement une question qui nous intéresse. Non, c'est vrai, j'avais entendu cette histoire avec Kanye West et l'antisémitisme. Étonnant d'ailleurs que Kanye West.
C'est vrai, c'est bizarre, parce qu'on ne connaît pas pour ça.
C'est pas son style. Non.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Lui, les atmosphères saturées en testostérone, il connaît. Il a longtemps été interne chez les frères maristes de Bétaram, une association loi 1901, ayant reçu le label Safe Place, attribué par François Bayrou personnellement. Depuis, syndrome de Stockholm oblige, il cherche à retrouver cette atmosphère dans des établissements spécialisés qu'on ne peut pas citer ici, car il est tôt. Bonjour Pierre Courade.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Chaque après-midi, tout ce qu'on s'est dit avec l'invité résumé en une minute chrono.
Et on a parlé de broligarchie, l'oligarchie des milliardaires virils.
viriliste bien testostéroné qui entoure Donald Trump. Ce sont ces bonhommes fans de MMA comme Mark Zuckerberg, passé du gars insignifiant au pro MAGA Real Quickly. Cette broligarchie, c'est aussi Jeff Bezos, le patron d'Amazon, Elon Musk, le fils préféré, qui a même intégré l'équipe de Trump, et le discret Peter Thiel, décrit par notre invité comme le premier des Trumpistes. Notre invité, donc Thomas Negaroff, brosse le portrait de ces hommes forts autour de Trump dans une série de podcasts réalisée avec Philippe Corbet. Des hommes qui ont peur de voir leur business s'altérer, peur de l'autre, peur des réglementations. En revanche, dans cette série de podcasts, on peut regretter l'absence d'un couple de broligarques qui imposent leur mode de vie sur la rédaction de Zoom Zoom Zen. Ces deux potentats, j'ose le dire, qui se gavent de choucroute et de terrine de lièvre à la pause méridienne dans une auberge des beaux quartiers parisiens pendant que les grouillots et autres assistants se tuent à la tâche. Je tairai évidemment leur nom pour ne pas alerter la direction de Radio France sur le train de vie de Cyril Lacarrière et de Mathieu Noël, qui ont pour point commun avec la broligarchie américaine telle que nous l'a décrite Thomas Negaroff, en dehors de Trump évidemment, l'argent et le désir de pouvoir.
Bien sûr.
En revanche, contrairement aux apparences, ils se détestent, tout pareil donc, mis à part évidemment leur nombre de passages à la salle de sport.
Merci Pierre Courage pour cette minute un peu augmentée avec des saloperies. Alors lui, on comptait pas trop sur lui en début de saison, mais force est de constater que ça reste de loin le plus fiable de nos chroniqueurs. Bonjour Ahmed Sparrow.
Bonjour tout le monde. Alors la broligarchie, c'est quoi? J'ai envie de dire la broligarchie, c'est qui? C'est Donald Trump et ses bros, ses frères, ses rouillas du CAC 40 américain. Des mecs ultra riches, ultra puissants et surtout ultra blancs qui s'associent pour contrôler le monde. C'est un peu comme les Avengers, sauf que eux, ils sauvent pas la planète, ils sauvent leur compte en banque. C'est ça le truc. Le trio magique de la broligarchie, c'est Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos. Des gars sûrs qui veulent faire croire qu'ils sont cool. Quand ils arrivent dans leur tête, la bande-son, c'est ça. Alors que pour nous, c'est plutôt ça. Ouais. Elon Musk, mesquine, c'est l'homme le plus riche du monde, mais vous avez vu sa dégaine, il a un torse énorme. Vous avez tous vu la photo à la plage. On dirait qu'il a avalé un meuble. Tu rajoutes un sticker Samsung sur son torse et tu vends ça chez Darty au rayon frigo double porte. Il a acheté Twitter juste pour s'assurer que ses blagues pas drôles apparaissent en priorité. On dirait les humoristes qui sponsorisent leurs vidéos de merde sur Insta. Non, c'est vrai. S'il était français, même France Inter l'aurait pas embauché. Alors qu'on a embauché Sophia Aram. Alors, il a transformé Twitter en TPMP géant. Il a rassemblé tous les Raymond et Isabelle Morini boss de la planète et leur a dit « Alors qu'est-ce qu'ils en pensent, les loulous ?» Résultat, que des débats de gogol. Et puis, il nous a surtout vendu l'autopilote Tesla, la révolution de la voiture intelligente qui conduit toute seule. Le problème, c'est qu'elle confond les dos d'âne avec les dos d'humains. Côté espace, c'est aussi le boss de SpaceX. La moitié de ses fusées explose au décollage et l'autre moitié explose à l'atterrissage. La NASA est passée d'une agence spatiale à une entreprise de feux d'artifice. Les astronautes, avant d'embarquer dans une fusée SpaceX, sont tous là. Dites à ma femme et à mes enfants que je les aime. Non, il a une tête. Non, après, il y a Zuckerberg. Zuckerberg, lui, c'est mon préféré. Hein. On dirait un Sims. Zéro personnalité, zéro charisme. Non, il a une tête de. Même son visage, on dirait les personnages de base que tu dois faire évoluer dans les jeux vidéo. Tu sais, il a une tête de faillot. Lui, c'est sûr, à l'école, il cachait sa copie pour pas que tu copies. Tu sais, c'est eux qu'on fait baisser ma moyenne. Je les déteste, ceux-là. Alors lui. Zuckerberg, c'est le meilleur. Il a retourné sa veste. C'était un démocrate à la base, mais depuis qu'il s'est mis à la muscu au MMA, il s'est senti pousser des couilles. Son groupe sanguin, c'est AB positif négatif. Il varie selon le gouvernement. Il a fait un test ADN, il s'avère qu'il est de la même lignée que Manuel Valls. Jeff Bezos, lui, c'est un loser qui essaie de trop jouer au mec cool, tu vois. Jeff Bezos, c'est le seul mec qui peut être milliardaire et quand même avoir une tête de ver de terre, quoi, tu vois. C'est, il a beau mettre des chapeaux de cow-boy, aller à la salle, ça change rien. C'est comme mettre un aileron sur une Formule 1 Twingo. Ça reste une Twingo, tu vois. On dirait un spermatozoïde qui a raté la fécondation, mais qui s'est dit, il faut que j'aille au bout. Le mec a conquis l'e-commerce, la logistique et l'espace, mais il est toujours incapable de conquérir une expression faciale. Et dites-vous que tous ces gens, ils sont... Leur chef, c'est Donald Trump. Donald. Il s'appelle Donald, déjà, de base. Et c'est Donald Trump, leur chef, tu vois. Il a nommé Linda McMahon, ex-patronne de la WWE, organisation de catch, au ministère de l'Éducation. Ouais. Son raisonnement, c'est qu'il s'est dit, si elle peut gérer des mecs en slip, elle peut gérer l'éducation de nos enfants. C'est vrai, super analyse, le Rookmout. Hein. Bah, il est fort. En tout cas, ces mecs prouvent une chose. Si au collège, t'es un geek qui lèche les bottes d'une brute écervelée pour avoir la paix, avec un peu de travail, de bons investissements et beaucoup de chance, tu peux devenir un multimilliardaire qui lèche les bottes d'une brute écervelée pour briser la paix.
Merci, Ahmed Sparrow. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zoom. Et je viens d'avoir votre livreur Amazon. Il passera pas. C'est foutu pour vous. Thomas Negaroff, merci de nous avoir permis de mieux cerner cette broligarchie qui se dessine outre-Atlantique. Et je rappelle, évidemment, pour aller plus loin, votre podcast Les oligarques de la Silicon Valley, anatomie d'un pouvoir sans limite, avec le journaliste Philippe Corbet, spécialiste des États-Unis. C'est retrouvé évidemment sur l'appli Radio France. Un dernier mot, parce que vous parlez de, on a parlé un peu de Peter Thiel au début de l'émission, vous dites, vous le surnommez le prophète.
Oui.
Il prophétise quoi ?
Il prophétise la fin des États, la fin de la démocratie, la fin de toutes les limites pour faire prospérer le capitalisme.
Eh ben voilà, on finit. Moi j'avais envie de finir sur une touche positive, optimiste. On se projette sur l'avenir comme ça fait. Zoom Zoom Zen.